Alors, petit B, on passe à Quintus Septimus Florens Tertullianus. 160-220. Et alors, qui était fils d'un centurion romain, comme Augustin finalement, qui est né à Carthage, où il étudie le droit. Et il devient avocat. Il va exercer à Rome. Et il se convertit au christianisme, peut-être impressionné par les martyrs. On pense que sa conversion date plus ou moins de 195. Dans son apologétique, l'Apologeticum, au chapitre 50, il dira, alors c'est la formule ramassée, mais la formule authentique est un peu différente, il dira « Sanguis martyrum semen christianorum ». Alors il revient à Carthage, déjà marié, il devient prêtre et il est chargé du catéchuménat. Et plusieurs de ses œuvres sont l'écho de son enseignement, donc de formation des catéchumènes. Plusieurs de ses œuvres, certaines écrites en grec, dit-il, pour plaire à nos esthètes de théâtre. Donc sont l'écho de son enseignement, alors j'en cite quelques-uns, des testimonios animés, le de baptismo évidemment, le de penitentia qui précède le baptême, de oratione c'est sur la formation à la prière, le ad uxorem sur le mariage, le adio deos aux juifs, voilà. Donc œuvre de catéchiste. Mais aussi œuvre de polémiste, en se servant de toutes les ficelles du métier de rhéteur, d'avocat. Et il s'oppose, lui, frontalement aux païens, puis plus tard, hélas, aux évêques, quand, après 213, il sombre dans le schisme montaniste. Alors, tout d'abord, il exalte le courage des martyrs dans un texte qui s'appelle Ad Martyres. Il défend le christianisme contre les attaques des païens. Donc, dans deux ouvrages apologétiques, Ad Nationes, aux nations, enfin, et l'Apologeticum. Il attaque les mœurs païennes. Donc il ne fait pas simplement que défendre les chrétiens, mais il attaque aussi les païens. Dans le De Spectaculis, alors songez que les spectacles à l'époque, c'était les gladiateurs et toutes ces choses. Ou dans le De Cultu Feminarum, c'est-à-dire la manière dont les femmes se griment, avec toutes sortes d'onguents, de perruques, de choses, etc. Mais alors là, il va beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est un lieu commun de tous les pères de l'Église de se moquer des coiffures des dames romaines. Mais c'est voilà. Alors, il vous avez ça sous Jérôme, enfin tous. Alors, il intervient aussi contre les gnostiques, la tendance platonicienne. Puis, c'est au début dans la première décennie du IIIe siècle qu'il va prendre conscience d'un désaccord avec les évêques qui, soucieux de l'ensemble du troupeau, sont moins intransigeants avec les fautifs, les lapsis. Et du coup, ça va être typique de tout le IIIe, IVe siècle. À chaque fois, les intransigeants vont s'opposer aux pasteurs en les traitant de lâches, de modérés, etc. Et en fait, ils vont tellement les critiquer qu'ils vont tomber eux-mêmes dans le schisme, et le schisme conduisant plus souvent à l'hérésie. Et c'est ce qui va arriver aux critiques de Cyprien, et notamment des énormes persécutions du IIIe siècle en Afrique, qui vont avoir raison de Saint Cyprien. Mais Saint Cyprien, avant de se laisser martyriser, vous vous souvenez qu'il avait quand même, il s'était caché pour continuer à diriger ses églises clandestinement et à préparer la résistance spirituelle. Et alors justement, et Augustin va hériter de toutes ces sectes, disons de tous ceux qui seront opposés à la grande église et au nom de l'intransigeance et qui vont se développer au point, comme dira Augustin, que le critère du nombre pour distinguer la secte de l'église n'est plus pertinent. Au moment où Augustin devient évêque, là, à la fin du IVe siècle, on peut dire qu'il y a autant de donatistes que de catholiques dans certaines villes et justement, quand on en appellera à l'évêque de Rome en disant bah, Rome, dont la foi n'a jamais erré, Rome est restée catholique, mais les donatistes pas fous avaient donné évidemment un évêque de Rome aussi. Donc ils pouvaient comment dire, en appeler, oui, se réclamer de Rome. Et alors là, ressort la bonne vieille apologétique de Saint-Irénée en disant. Montrez-nous vos tablettes de descendance jusqu'aux apôtres, nous on peut montrer les nôtres. Autrement dit, la succession ininterrompue depuis Saint-Pierre, alors qu'évidemment, pour les donatistes, c'est beaucoup plus récent. Alors, notre. Oui, et alors du coup, il va développer, lui, la notion de péché irrémissible. L'adultère, l'homicide, l'apostasie, donc qui sont des péchés pour lesquels on ne peut pas obtenir de rémission. C'est lui qui a cette belle formule de la pénitence comme planche du salut. Hein, vous voyez, on fait naufrage et avec comment dire, les planches qui surnagent, eh bien, on s'accroche, mais on peut pas. Si on retombe de la planche, ben là, on coule définitivement. Donc, c'est l'idée de péché rémissible. Donc, il y a des péchés qui peuvent pas être remis, selon. Et en plus, il faut dire aussi que la pratique de la pénitence, c'est une pratique à l'époque extrêmement astringente, enfin très très. Très très rude, astreignante, pardon, astreignante et en même temps limitée à certains péchés particulièrement graves. Donc il va aussi rompre avec la société romaine qu'il trouve trop mondaine pour rejoindre cette secte montaniste. Alors il écrit. Des réfutations de gnostiques aussi. Alors c'est intéressant parce que on a aussi donc à cette fin du deuxième siècle une réfutation des doctrines qui étaient encore en vogue depuis le début du siècle, notamment Ad Martionem, donc un écrit contre Martion, donc contre le rejet de l'Ancien Testament, contre les Valentiniens, donc la doctrine de Valentin. Vous savez, quand on lit ça dans Saint-Irénée, parfois on a envie de rire, quoi, avec toutes les spéculations des Valentiniens. Et puis, va aussi contre les gnostiques, qui évidemment disent que l'esprit est enfermé dans la chair et qu'il doit s'en libérer. Il va écrire aussi un De Resurrectione Carnis, ou De Carnis Resurrectione, qui va donc. Parler de la possibilité de la résurrection de la chair et de sa réalité dans le christianisme. Et puis il va évidemment, avec son passage au montanisme, accentuer son intransigeance morale, notamment dans le De Virginibus Velandis, dans les vierges à voiler. Vous voyez, enfin, finalement, c'est des choses qui se font depuis longtemps hein, là-bas. Hein. Et puis aussi son rejet des mœurs romaines avec le dépallio, le manteau, hein, qui s'oppose à la toga, qui est le vêtement romain par excellence. Donc en 211, il devient schismatique. Il attaque la position des évêques qui recommandaient de ne pas s'exposer, inutilement au martyr, dans le De fuga in persecutione. Il veut rendre obligatoire le jeûne du mercredi et du vendredi, dans le De iuvio nio. Interdire les secondes noces, dans le De monogamia. Et il s'oppose à la mansuétude dont fait preuve le pape Calixte à Rome, qui, en tant que, que pasteur, a une vision plus, entre guillemets, plus pastorale de toutes ces choses. Alors, je vais vous passer des feuilles sur Tertullien. Parce qu'en fait, on n'a plus trop de nouvelles après qu'il a vraiment versé dans le schisme. On pense que c'est 220. Alors, Tertullien va fixer pour les chrétiens la latinité et doter cette latinité chrétienne d'un vocabulaire. Lui-même étant bilingue, donc à la différence de saint Augustin qui connaissait moins bien le grec, lui pratique très bien le grec. Et du coup, il a connaissance des controverses et des écrits de langue grecque. Alors son christianisme, et avec lui celui de l'Afrique, des Berbères, là, n'a rien à voir avec l'humanisme alexandrin égyptien. Et par exemple, dans le De prescriptione hereticorum, numéro 7-9, numéro que je vous ai recopié ici, il dit « Qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem, entre l'Académie et l'Église ? Notre doctrine vient de Salomon, qui avait lui-même enseigné à chercher Dieu d'un cœur tout simple. Tant pis pour ceux qui ont inventé un christianisme stoïcien, platonicien, dialectique. » Alors son style est celui d'un juriste, par exemple dans l'Apologeticum, il dénonce l'absurdité de la condition faite aux chrétiens, hein, le nomen christianum. Et il dit ceci, « Oh, l'étrange sentence, illogique par nécessité. Comme des innocents, il ne faut pas les rechercher. Comme des criminels, il faut les punir. Quand les autres accusés nient, vous leur appliquez la torture pour les faire avouer. Aux chrétiens seuls, vous l'appliquez pour les faire nier. » Vous voyez ? Donc, cette tournure mentale de juriste trouve dans la religion révélée une matière de choix, notamment dans le De prescriptione hereticorum. Il va dénier aux hérétiques tout droit de recourir aux Écritures, car, dit-il, ils n'ont aucun droit sur elles. Elles n'appartiennent qu'à ceux à qui elles ont été confiées. Autrement dit, l'Église hiérarchique, par le biais des évêques, et à ceux qui les ont produites, c'est-à-dire les apôtres. Vous voyez ? Et donc, c'est un larcin que pour les hérétiques d'argumenter à partir des Écritures. Il leur dénie le droit de les comprendre, a priori. Et c'est très puissant, ça veut dire, parce que puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Et ils peuvent comprendre la matérialité du texte, mais ils ne peuvent pas comprendre le sens profond du texte. Et c'est très juste, hein, cette attitude. Moi, c'est ce que je dis aux témoins de Jéhovah, ou ce genre d'hérétiques qu'on croise. Je leur dis, de toute manière, vous utilisez la Bible, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas la comprendre, ça ne vous appartient pas.
Qu'est-ce qu'ils répondent ?
Ben, ils sont un peu étonnés, parce qu'en général, ils n'ont pas lu Tertullien. Alors, donc, ce langage juridique va marquer sa théologie. Dieu est juge, surtout. Le péché, une transgression juridique. La pénitence, une satisfaction juridique. Donc, une vision très judiciaire, en quelque sorte, du christianisme. Mais il va permettre de faire des progrès. Par exemple, il sera le premier à distinguer entre les préceptes et les conseils. Vous voyez? Et donc, par là même, à donner les instruments pour la fondation de l'état de perfection. Il marquera aussi durablement l'esprit latin, parce qu'il va être le premier qui va utiliser le terme de trinité, par exemple. Il engagera eh bien, ses successeurs dans une voie différente de celle de l'Orient, qui reste plus théologique, plus tournée vers la divinité, tandis que Tertullien va avoir davantage tendance à tourner la réflexion vers l'homme. Et on verra comment Augustin est bien le fruit de cela. Hein. Alors, du point de vue philosophique, il est assez proche des stoïciens, y compris avec sa doctrine de la matérialité de l'âme, donc plus proche des stoïciens que des platoniciens. Et encore Augustin, à la fin du IVe siècle, se posera la question, enfin n'arrivait pas à comprendre l'immatérialité de l'âme. Donc il faudra qu'il tombe sur des platoniciens pour qu'il soit illuminé par l'idée qu'une réalité peut exister sans être matérielle. Et ça, il dira que c'est vraiment le grand apport des platoniciens et ce en quoi il demeure débiteur des platoniciens. En théologie, il va prendre position contre ce qu'on appelle les monarchiens ou modalistes. Et il sera le premier, dans son Adversus Praxeam, à parler d'une nature en trois personnes. Et donc il ne dira pas trois modalités, où chez les monarchiens, il y avait Dieu le Père qui était le Dieu supérieur, puis des dieux inférieurs. Mais il va véritablement parler de ce qui est le cœur du mystère, sans pouvoir l'expliquer non plus, d'une nature en trois personnes. Et c'est au nom de sa foi et avec une logique imparable qu'il s'oppose à Rome. Pour lui, tout le système politico-religieux romain repose sur le néant des idoles auxquelles plus personne ne croit. Et il dira, le Christ n'est pas une coutume, il est la vérité. Alors que tout le système romain repose sur la coutume. Pour lui, le paganisme est démoniaque, car derrière ces néants, en fait, ce sont les démons. Et ce qu'il y a de juste chez les païens provient d'un larcin fait aux juifs. Et en morale, donc comme je vous disais, en morale, il est certes rigoureux, mais donne aussi, comme Clément d'Alexandrie, des critères de discernement pour bien se conduire dans une société païenne, où certains actes ou professions ont valeur religieuse et donc d'apostasie, y compris par exemple l'enseignement. Pourquoi ? Parce qu'on doit enseigner les mythes. Et enseigner les mythes, c'est propager le polythéisme et tout ça. Alors, il a aussi cette très belle formule en disant que l'âme est naturellement chrétienne avant d'être corrompue par le paganisme. Et puis, il va insister sur la foi qui humilie la raison. Il y a un passage du De Carne Christi qui est assez amusant. Il dit « Le Fils de Dieu est crucifié, ce n'est pas objet de honte puisque c'est une honte. » Et le Fils de Dieu est mort, c'est croyable puisque c'est inepte. Et il est enterré et ressuscité, c'est certain puisque c'est impossible. Donc vous voyez, c'est l'antithèse poussée à son extrême. Donc c'est Dieu toujours plus grand, en fait, et qui humilie la raison, qui la mystifie, qui l'éblouit en quelque sorte. Il dira que partout, et vous aurez un écho de ça dans Augustin qui dira « Partout où tu crois comprendre, ce n'est plus Dieu. » Alors, sur la fin de sa vie, on pense qu'il aurait fondé sa propre secte, mais on ne sait pas trop quand il est mort, vers 220 à peu près. Alors, son épitaphe, on pourrait la trouver justement dans le premier passage que je vous ai cité, le prologue du De Patientia. Je le confesse devant le Seigneur Dieu, c'est témérité de ma part, et peut-être impudence, de prêcher la patience dont je suis tout à fait incapable de donner l'exemple. Il n'y a rien de bon en moi. Et pourtant, il faudrait que celui qui prétend enseigner et prêcher une vertu commençât par la mettre en pratique et s'acquît le droit de prêcher par l'autorité de son exemple pour n'avoir pas à rougir de sa parole que ses actes contredisent. C'est bien dit, hein. Donc voilà une présentation générale de Tertullien, et après on verra un petit peu en détail ses œuvres.